Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Binti Minoudi avec comme invité ce soir Pedro Anton et Tomasi, le président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée de Corse. Pedro Anton et Tomasi, bonsoir.
Bonsoir.
Actualité chargée et brûlante ce jeudi au menu de Binti Minoudi, le maritime évidemment, avec le conflit à la méridionale qui s'enlise. Que faire pour en sortir? Question que l'on peut poser également pour la gestion des déchets, deux dossiers que la majorité territoriale avait mis un point d'honneur à résoudre rapidement. Nous parlerons aussi des paillotes, terrain sablonneux sur lequel on n'attendait pas forcément Corsica Libre. Enfin, évidemment, nous évoquerons les relations plutôt tendues au sein de la majorité territoriale. Mais avant, Pedro Anton et Tomasi focus sur le fléau des incendies même en hiver. Comment y faire face? C'est cette semaine le dossier de Binti Minoudi.
Binti Minoudi, le dossier.
Pour la deuxième année consécutive, la Corse est embrasée en hiver. En 2018, c'était début janvier, 2000 hectares partis en fumée du côté de Tiadre et Cervione. Cette année, c'est fin février, près de 1700 hectares de végétation ravagés en un week-end à Saint-Paul, au Tola, au Canassisque, au Guisone et surtout à Calanzane, la commune la plus touchée, 1300 hectares détruits. Il faudra s'y habituer même en hiver, déplore le capitaine Simon-Pierre Riolacci du service incendie et secours de la Haute-Corse.
On a eu des défaits comme ça sur Zanana, à Lire, en hiver. La végétation était sèche, mais c'était dû au froid, au gel, et c'était la fougère. Sur des régions, on a beaucoup de fougères, de maquis, qui sèchent bien l'hiver. Mais là, le phénomène, quand même, qui est marquant, je veux dire, et on a du mal à comprendre. On fait face au phénomène, on lutte, mais c'est vrai que quand on se pose la question, eh bien, on a la réponse. Malheureusement, c'est le changement climatique.
Le changement climatique et l'irresponsabilité de certaines personnes. Il y a eu une cinquantaine de mises à feu. Des enquêtes sont en cours pour en déterminer l'origine, acte criminel ou imprudence, des éco-buages non maîtrisés sont pointés du doigt. La préfète de Corse, Josiane Chevalier, a pris un arrêté d'interdiction, mais en appelle aussi à la responsabilité de chacun.
Je souhaite que chaque citoyen prenne ses responsabilités. La sécurité civile, c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous. Quand il y a un incendie, c'est aussi une atteinte très forte à l'environnement. Et ça, je pense que chaque personne peut y être particulièrement sensible.
De son côté, Guy Armanet, le président du service incendie et secours de Haute-Corse, se propose que même en hiver, des moyens aériens soient prépositionnés en Corse.
Quand on sait que l'attaque de feu doit se gagner dans la première demi-heure, si vous avez Canadair, Bastia, Ajaccio, vous comprendrez bien que c'est certainement plus facile pour intervenir immédiatement.
Reste à savoir si avec le vent, ces moyens aériens auraient pu décoller immédiatement. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils ont pu le faire, entre le 23 et le 26 février, deux Canadair et deux Tracker ont cumulé 60 heures de vol et procéder à 118 largages, permettant ainsi, avec l'appui bien sûr des moyens au sol, de maîtriser ces incendies.
Binti Minoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec Pedro Anton et Tomas, le président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée de Corse, à l'été 2017, Pedro Anton et Tomas, après des incendies dévastateurs à Bigouille et Foriani, Gilles Simeone, le président de l'exécutif, déclarait « Soit l'État est capable de mettre les moyens, soit si l'État ne met pas les moyens, nous affrèterons nous-mêmes les moyens de lutte aérienne ». Ça reste d'actualité aujourd'hui ou c'est oublié ?
Non, je crois que ça n'est pas oublié. C'était une déclaration politique importante. L'Assemblée de Corse, derrière, s'était prononcée d'ailleurs pour soutenir le dispositif qui était lié à la position d'extrême laxisme, de notre point de vue, du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, qui temporisait alors que le feu de Bigouille et Foriani à l'époque continuait de progresser avec un danger y compris pour les habitations et pour les habitants. Je crois qu'il y a effectivement dans le débat autour de la lutte contre l'incendie, avec, vous le rappeliez, des feux qui aujourd'hui non seulement prospèrent l'été mais également l'hiver, au moins deux enjeux. Il y a l'enjeu de la lutte contre l'incendie avec évidemment la question de moyens positionnés en Corse et avec certainement une capacité d'intervention renforcée pour la collectivité, avec également, nous l'avions posé à l'époque, la question des renforts transfrontaliers. Il y avait eu d'ailleurs une délibération du Conseil Corse-Sarde à cet effet pour essayer.
Et c'était l'Europe d'aller qui avait envoyé un avion, hein.
Tout à fait, mais avec des délais qui étaient, de notre point de vue, un petit peu trop longs parce que cela transitait par Paris et Rome, alors que l'on aurait pu avoir des transports de...
Un Canadair, pardon, c'est 20 millions d'euros.
Non, mais il y a
pièce.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, vous savez qu'y compris en l'état actuel, au niveau des services d'incendie et de secours, des investissements importants qui sont menés par la collectivité. Je crois qu'il y a là une vision d'investissement pluriannuel à avoir avec ce renforcement. Et puis, il y a des partenariats à nouer en ligne directe avec nos voisins européens sans avoir à transiter par les capitales, parce que ça a été dit par Guy Armanet, on gagne le combat contre le feu dans les premières minutes. Et puis, au-delà de ça, il y a un débat de fond à ouvrir. Aujourd'hui, on a un milieu qui se referme, on a une déprise agricole, et je crois que c'est aussi une donnée centrale du problème,
c'est le
qui est celle de l'aménagement
fond.
Du territoire, qui est le problème de fond, évidemment.
C'est le problème de fond, c'est l'abandon de l'intérieur. Mais à minima, Guy Armanet demande dans ce reportage la présence à l'année de moyens aériens en Corse. Des démarches allant dans ce sens, concrètement, ont été entreprises par la collectivité de Corse auprès des services de l'État ?
Mais en tout cas, l'Assemblée de Corse, à cette heure, n'a pas été saisie. J'ignore donc s'il y a eu des démarches officielles venant du président du ZIS ou du président du Conseil exécutif, mais ça nous semble évidemment des mesures tout à fait adaptées et appropriées pour être plus réceptif et plus efficace face à ces feux.
Vous l'avez dit, le problème de fond, c'est l'abandon de l'intérieur. Alors, c'est une priorité, le développement du monde rural, des nationalistes, mais on s'aperçoit que dans ce dossier aussi, les incantations ne suffisent pas. Le passage à l'acte est plus difficile. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, ce développement, quand on voit le résultat aujourd'hui ?
Ça a été, durant des années, un vœu pieux, un slogan de campagne électorale, la revitalisation de l'intérieur. Et c'est vrai que les nationalistes, notre majorité, a suscité beaucoup d'espoir, avec notamment la réactivation de ce comité de massif qui était resté en état de léthargie durant des décennies et qui avait conduit à perdre des centaines de millions d'euros de crédit. Effectivement, aujourd'hui, il faut
Mais pour l'instant, le comité de massif, ce sont des réunions, hein,
alors,
pour l'instant.
J'y viens. Ce ne sont pas que des réunions, mais si vous me posez la question, effectivement, je pense que, et nous pensons, que l'investissement financier est pour l'heure insuffisant. C'est la raison pour laquelle j'ai moi-même interpellé le président de l'exécutif via une question orale il y a quelques mois, pour que, à côté de ce comité de massif et de ces réunions qui sont tout à fait nécessaires pour élaborer une politique, nous ayons un plan pluriannuel d'investissement pour monter en puissance. Il y avait 1 million d'euros de crédit de paiement au budget de l'année 2018. Il faut qu'il y ait une montée en puissance progressive pour que, au-delà des incantations, vous le disiez, il y a vraiment une bataille pour la montagne avec un véritable plan Marshall pour la montagne. C'est ainsi que le schéma de massif avait été à l'époque présenté et nous restons déterminés à agir en ce sens.
Alors, autre dossier auquel est confrontée la majorité territoriale, les transports avec cette grève à la Méridionale. Depuis le début de la semaine, la Méridionale qui pourrait être écartée de la délégation de services publics Corse-Continent, ouvrant la voie ainsi à un monopole privé avec la course Égaline, l'exécutif Pedro Antonio Tomás doit-il suspendre la procédure d'attribution de cette DSP comme certains le réclament ?
Écoutez, vous savez qu'à cette heure, et l'exécutif et les membres de l'Assemblée de Corse sont pour le moment tenus à un devoir de réserve sur cette question, puisqu'il y a des procédures qui sont en cours. Ce qui est certain, et ce qu'a dit le parti Corsica-Libera auquel j'appartiens, c'est que la situation du monopole privé est la situation du pire, qui va conduire, si les choses vont mal, à une casse sociale sans précédent au niveau de la Méridionale, et à une situation de monopole qui, pour l'économie de la Corse en général, ne nous semble pas être un schéma qui soit un schéma acceptable. Donc, une fois que l'on a dit ça, je crois qu'il y a un objectif vers lequel il faut tendre et se rapprocher rapidement. Cette DSP, c'est encore une DSP de raccordement. Il faut changer de modèle et mettre en œuvre le plus rapidement possible le modèle pour lequel on a délibéré, c'est-à-dire cette compagnie maîtrisée par la puissance publique.
On va y venir, c'est-à-dire une compagnie maritime régionale. Mais un conflit en pleine vacances scolaires, deux recours en justice, hein, celui de la Corsica Ferries et celui de la Méridionale, alors que jusqu'ici, la majorité territoriale nous disait que le secteur était apaisé. Est-ce qu'au final, c'est un échec ?
Le secteur était apaisé, c'est quelque chose qui relève tout à fait du factuel. Personne ne peut dire l'inverse.
Mais on s'entend guère.
Tout à fait. Parce que bien sûr, le droit de grève est un droit constitutionnel, un droit fondamental que l'on ne remet pas en cause, mais c'était dû aussi, nous le pensons, à un volontarisme politique et à un nouveau modèle qui était en train de s'imposer.
C'était peut-être dû aussi au rapport privé entre la Méridionale et la Corsica-Ligne, qui à l'époque était apaisé, puisqu'ils étaient ensemble.
C'est un autre élément factuel, mais nous pensons que le monde économique ne s'auto-régule pas uniquement par le biais de la main invisible, comme le disent les libéraux, mais que ce que font les politiques et ce que fait la collectivité, ça a aussi un impact. Aujourd'hui, effectivement, il y a cette situation qui est une situation extrêmement préoccupante, notamment pour les salariés de la méridionale. Je note quand même, encore une fois, sans m'éloigner de ce devoir de réserve, que si l'on en croit les syndicalistes de la compagnie, ceux-ci s'interrogent davantage sur les intentions du groupe STEF et de la compagnie que sur les intentions de la collectivité de Corse, qui sont connues et qui sont normées par le cahier des charges de la DSP qui a été approuvé par l'Assemblée de Corse.
Donc on n'intervient pas pour l'instant. La compagnie maritime régionale à laquelle vous faisiez allusion, promise en 2018, finalement renvoyée en 2021, vous y croyez encore ?
Nous, non seulement nous y croyons du côté de Corsica Libre, mais nous pensons qu'il faut effectivement s'y rapprocher le plus rapidement possible, bien sûr en tenant compte des impératifs européens et communautaires, des remarques de la Commission européenne, mais effectivement, je crois qu'il y a véritablement aujourd'hui une nécessité de maîtrise publique de cette compagnie pour éviter et ces situations de monopole et cette guerre commerciale qui ne peut que conduire à de la casse sociale.
Alors, on verra la suite dans les prochaines semaines. Alors, des soubresauts dans le maritime et puis dossier majeur également en panne, la gestion des déchets. Le seul discours qui consiste à dire trier, tout le monde est d'accord là-dessus, ne se fie pas apparemment. La Corse se retrouve avec un excédent de 70 000 tonnes de déchets. Depuis la présentation devant l'Assemblée de Corse du plan de traitement d'Agnès Simon-Pietri début 2016, rien ne semble avoir changé. Au grand dam d'ailleurs de Vigiane, loin, il faut enfouir et toujours enfouir encore plus. Mercredi sur notre antenne, François Sargentini, le président de l'Office de l'environnement, Corsica Libre d'ailleurs, qui a en charge aujourd'hui ce dossier, a répété à plusieurs reprises, on va entrer dans une phase opérationnelle. J'ai envie de vous dire, c'est riaour.
Et d'ailleurs, je qui serai ora, ma c'ho l'arrivée des gantons qui traudent pour politique ou d'un pan administratif ou certe ton scart. Il y a eu un plan évidemment voté en 2016, ça c'est la feuille de route. On ne s'en éloigne pas. Il y a eu un correctif amené par François Sargentini et l'Assemblée de Corse lors de l'année passée, avec la volonté de gagner en opérationnalité. Et on est aujourd'hui dans une phase où il faut augmenter les moyens, y compris les moyens techniques et les moyens de soutien aux intercommunalités qui ont la charge de la collecte. Et je crois que c'est à travers cette mise en synergie de tous les acteurs que l'on peut gagner cette bataille-là. Je crois qu'il faut noter quand même que par le passé, les différents acteurs, collectivités, offices de l'environnement, Civadec, État, Comcom, ne s'étaient jamais retrouvés en un même endroit pour bâtir cette stratégie et pour cheminer ensemble. Or, si on ne chemine pas ensemble sur ce dossier, on a toutes les chances d'échouer. Donc aujourd'hui, nous croyons qu'il faut, et c'est ce qui s'apprête à être débattu et voté à l'Assemblée de Corse, renforcer les moyens de la collectivité pour accompagner notamment les communautés de communes et accélérer aujourd'hui ce processus de tri qui est la clé de voûte de toute politique pour régler la question des déchets.
Mais on ne sait pas encore où vont aller ces déchets. Pour l'instant, il n'y a aucune intercommunalité qui s'est déclarée candidate à les accueillir.
Tout à fait. En revanche, ce qui est positif et qu'il faut signaler, ça a été dit notamment au sortir de la dernière réunion qui a eu lieu à Corté, c'est qu'aujourd'hui, on semble aller vers un consensus pour réfléchir sur des centres d'enfouissement plus petits, plus adaptés, qui permettent
Pour être mieux acceptés.
Pour être mieux acceptés, tout à fait. Avec peut-être des seuils de rentabilité qui seront moindres, mais est-ce que le but du service public, c'est d'être rentable? En tout cas, il faut qu'il ne soit pas trop déficitaire, mais je crois qu'il faut peut-être perdre en rentabilité pour gagner en acceptabilité sociale et pour accélérer la manœuvre.
Alors, l'exportation de ces déchets n'est pas encore abandonnée, malgré le refus pour l'instant de la ville de Toulouse de les accueillir. Au-delà du coût de cette exportation qui est élevé, de ne pouvoir gérer ses propres déchets, n'est-ce pas paradoxal pour une île qui entend devenir autonome, voire davantage?
Mais écoutez, lorsque nous sommes arrivés à la collectivité territoriale de Corse à l'époque, en décembre 2015, vous imaginez bien que cette option était en bas de la pile. Et que pour des nationalistes, de surcroît des indépendantistes du côté de Corsica Libre, cette option de l'export des déchets est donc... du mal à passer, mais effectivement, elle peut apparaître comme contradictoire avec notre doctrine politique. Et c'est pour ça qu'elle est envisagée uniquement en dernier recours, comme une soupape de sécurité. Mais je crois que François Sargentini, vous le rappeliez, membre de l'exécutif et membre de Corsica Libre, le disait il y a quelques jours, toujours, l'objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour ne pas être contraint d'actionner le levier de l'export, d'autant que ça coûterait aux contribuables corses extrêmement cher.
Là encore, les prochaines semaines seront décisives.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Alors, Pedro Antón et Tomás, il y a une quinzaine de jours, votre parti, Corsica Libre, appuie Jean-Guy Talamone, la semaine dernière dans Corse Matin, se sont livrés à une sorte de critique en creux de l'action de la majorité territoriale. Le discours en substance, c'est « on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite, il faut que nous mettions enfin en œuvre les fondamentaux du nationalisme et de la justice sociale », dixit le président de l'Assemblée de Corse. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui les relations entre les trois composantes de la majorité territoriale?
Ce sont des relations qui se fondent sur un contrat politique, qui est le contrat de paix à Corsica. Et nous, nous disons qu'il faut porter un regard lucide sur ce qu'est aujourd'hui l'action de la majorité territoriale. Je crois que les Corses nous ont élus parce qu'ils avaient confiance en notre majorité. Et que la confiance, ça induit à la fois de dire lorsque les choses vont bien et de nous réjouir des réussites de cette majorité, y compris dans la conférence de presse de Corsica Libre, nous avons délivré un certain nombre de satisfecits.
Et à l'instant, vous venez de défendre le bilan.
Tout à fait. Mais la confiance, ça commande aussi de tenir le discours de la vérité aux Corses, de leur dire, lorsque nous rencontrons des difficultés, de leur expliquer pourquoi, d'essayer de leur dire comment on va les contourner, ces difficultés, et vers où nous voulons aller. Donc l'intervention de Corsica Libre, à travers le mouvement, à travers son groupe politique, à travers le président de l'Assemblée de Corse, qui appartient à cette formation, c'est une contribution au débat politique, avec des propositions que nous allons défendre, que nous avons commencé à défendre d'ailleurs la semaine dernière devant l'Assemblée de Corse, et que nous allons continuer à défendre dans les semaines qui viennent.
Alors, pour être concret, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans la politique actuelle de la majorité territoriale?
Je crois qu'on ne raisonne pas nécessairement en ces termes. Ce que nous disons, c'est qu'il y a eu une première phase générale. Ça a été, pour schématiser, la phase de 2016 à 2018, fin 2018. Avec d'abord un travail qui a consisté à assainir la situation de la collectivité de Corse, notamment au plan budgétaire et financier et au plan, j'ai envie de dire, des procédures internes. Il y a eu la phase des grandes feuilles de route politiques. On a parlé des transports, on a parlé des déchets. Le cap est fixé, notamment, sur ces dossiers-là. Et il y a eu la phase de mise en œuvre de la collectivité de Corse. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut refermer cette séquence et rentrer dans une séquence plus opérationnelle où Corsica Libre...
Dans quel domaine, par exemple?
Alors, nous sommes intervenus autour de trois domaines qui concernent les fondamentaux du combat nationaliste, la terre, la langue et l'accès à l'emploi, et notamment la question de la corsisation des emplois, la question de la justice sociale aussi, qui est consubstantielle à notre action politique, mais ça peut aussi concerner des mesures qui, selon nous, demandent de l'audace politique, qui ne concernent pas forcément les fondamentaux du nationalisme, et je pense à la question de l'énergie. On est intervenu pour demander d'accélérer notre transition énergétique à l'heure où non seulement la PPE semble être remise en cause par l'État, mais où partout dans le monde, je pense aux États-Unis où un Green New Deal est en débat devant le Sénat, où on essaye d'accélérer et de beaucoup par rapport à la stratégie corse cette transition. Donc encore une fois, c'est une contribution au débat politique avec des propositions concrètes. On parlait des fondamentaux, bien la langue. On a un plan, Lingua Duyemi Lebinti, qui est aujourd'hui la feuille de route de la collectivité. En vitesse de croisière, il demande 10 millions...
Appliquons ce plan.
Appliquons-le, et puis il demande 10 millions d'euros, c'est à peu près l'estimation de la mise en œuvre de ce plan en vitesse de croisière. On est autour des 3 millions en crédit de paiement. Nous pensons qu'il faut augmenter l'effort progressivement.
Tension ou pas, que s'est-il passé, Pedro Antón et Tomás, vendredi dernier à l'Assemblée de Corse, durant les 3 heures de suspension de séance? Suspension qui a provoqué la colère de l'opposition. Il s'agissait, pour rappel, de réécrire une motion déposée par Corsica Libre concernant l'implantation des paillotes.
La vérité me commande de dire que ce n'est pas cette question qui a monopolisé nos travaux durant ces quelques heures. Bon, d'abord, ce sont des suspensions qui sont assez habituelles.
Ça a provoqué le départ
dans des assemblées politiques. Il y a eu une discussion pour ajuster des propos sur cette question des AOT de plage, mais je dois la vérité de dire que les trois composantes de la majorité étaient d'accord sur ce qu'il convenait de demander et on travaillait à une réécriture. Et puis il y a eu des propositions d'amendements de forme proposées par l'exécutif sur des motions déposées par Corsica Libera et même d'ailleurs le groupe PNC, ce qui a conduit d'ailleurs à cette suspension qui, de mon point de vue, a été et de beaucoup surinterprétée.
Vous avez édulcoré en fin de compte la motion initiale. Pedro Antón et Thomas, vous comprenez qu'ayant longtemps, vous les nationalistes de Corsica Libera, ayant longtemps stigmatisé le tourisme et notamment le tourisme de bord de mer, eh bien aujourd'hui beaucoup s'étonnent de vous voir prendre la défense des propriétaires de Payotte.
Je crois que les choses sont un peu plus fines que ça. D'abord, le texte n'a pas été édulcoré. Il y a eu quelques amendements formels. Je tiens à dire que, évidemment, nous redisons tout notre attachement et au PADUC sur lequel nous avons travaillé, que nous avons voté, et à la loi littorale. Mais je crois qu'il y a derrière cette question-là des questions qu'il faut poser. Aujourd'hui, c'est notamment le PADUC, donc un acte de la collectivité de Corse, qui fixe les règles en matière d'attribution des AOT, mais c'est une autre autorité, l'État via la préfecture de Corse, qui attribue les AOT. Or, première question, on a du mal à connaître les critères qui vont être appliqués cette année pour l'attribution des AOT, et nous avons demandé à travers ces motions à l'État d'éclairer le jeu. Deuxième question, il y a aussi des débats de fond qui ne sont pas neutres. Le débat, c'est pas l'État qui serait devenu par un coup de baguette magique aujourd'hui le garant absolu de l'État de droit après des années de l'achat-gore et sur cette question des paillotes. Le débat, c'est aussi qu'est-ce que peut induire aujourd'hui une concession sur les plages. On sait qu'à La Baule notamment, la concession a conduit à attribuer au groupe Veolia, une multinationale, la gestion des plages. Je crois que ce sont des débats politiques de fond qu'il faut avoir, et la question, c'est qu'il faut cadrer, normer et faire appliquer le PADUC.
Alors, dernière question, elle concerne toujours les critiques vis-à-vis de la majorité territoriale qui ne viennent pas uniquement de Corsica Libera, mais aussi du PNC qui vous rejoint notamment sur les relations avec Paris. Si l'on entend le PNC de Jean-Christophe Angeline, il faut taper du poing sur la table. Et dans un communiqué, il est écrit « Oui, sur le constat, on est d'accord avec Corsica Libera. » Aujourd'hui, vous êtes plus proche du PNC que de Fémon Agours qui est dans cette majorité ?
Écoutez, la question ne se pose pas en ces termes. Moi, je prends note de ce que vient de dire le PNC avec un accord sur la question dont vous parliez. On a un accord politique, c'est Péagours. Et à Corsica Libera, on ne compte pas remettre en cause cet accord politique. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une nouvelle donne avec la création d'un troisième groupe, le groupe du PNC, qui contribue aussi à libérer la parole dans la majorité. Je crois que c'est sain. Et je crois qu'il est important que l'on ait des débats. Une majorité, quelle qu'elle soit, c'est ni une caserne, ni un fan club. Et je crois qu'il est important que les groupes s'expriment, expriment leur diversité et contribuent à faire avancer les dossiers et à faire avancer la Corse.
Et ça continuera jusqu'en 2021 ?
Et ça continuera jusqu'en 2021 au moins, puisque nous avons un accord sur 10 ans.
Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin.
Merci à vous.
Anton et Thomas.
Merci.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bintiminoudi avec Pedro Anton et Thomas, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu rcfm.fr. À suivre, Michael Andréani.